This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle.
J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
Ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
Zut, rezut, et rezut derrière.
Ah, je vois, monsieur se fout de moi, monsieur fait d'ironie.
Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque?
Ben ça, c'est du spectacle.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Old is beautiful, le vieux c'est beau et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Nouveau rendez-vous de Réaliser sans trucage, tous les lundis, nous vous parlons d'un film de patrimoine à l'occasion d'une ressortie en salle ou en Blu-ray. Autour de la table, eh bien on ne change pas, une équipe qui perd. Salut les camarades.
Salut.
Bonjour, ici la défaite.
Après la fête, la défaite, c'est bien connu mon cher Michael. Aujourd'hui, on embarque en ferry sur une île lugubre qui abrite un hôpital psychiatrique de haute sécurité. Et sur cette île, eh bien, se passent des événements bien étranges. En effet, ce film, c'est... Un petit indice en plus.
Beaucoup de gens connaissent cet endroit, mais personne ne veut en parler, vous voyez? C'est à croire qu'ils ont peur.
Tu comprends pas, t'es un rat dans un labyrinthe.
Qui est au courant? Tout le monde. Les infirmières? Le personnel? C'est impossible! Tout le monde. Vous comprenez bien qu'ils ne peuvent pas vous laisser partir.
Où allez-vous comme ça?
Vous aurez sans doute reconnu Shutter Island de Martin Scorsese avec notamment Léo DiCaprio, Mark Ruffalo, Michelle Williams, adapté d'un roman de l'immense auteur de thriller Dennis Lee Hane. Shutter Island, est-ce que c'est un Scorsese majeur ou un Scorsese mineur? Unpopular opinion, Sophie.
Oui, voilà, bonne soirée. Je suis une grande fan de Scorsese, comme beaucoup de gens. Je l'ai pas mal étudié, que ce soit en fac de lettres ou en fac de ciné. Je suis fascinée par son rapport à la religieuse, son rapport tortueux au féminin. C'est quelqu'un qui me fascine dans ses choix, dans son renouvellement, genre son lien, son attachement aux acteurs. Et je me souviens très bien quand je suis allée le voir en salle Shutter Island. J'attendais beaucoup parce que c'était un petit... Il allait vers le thriller horrifique, paranoïaque, tout ça. Et j'étais super déçue. Je n'aime pas Shutter Island. Je sais que c'est une unpopular opinion, mais je me suis un peu demandé pourquoi. Parce que moi, je le trouve assez bourru, assez grossier, assez vulgaire, assez moche. Je trouve que la photo est terne. Je trouve que les incrustations sur fond vert sont dégueulasses. Vraiment, c'est un film que je ne porte pas dans mon cœur pour plein d'aspects. Et là, je regardais un petit peu ce qu'avait fait la scénariste. Donc, la scénariste Laeta Kalogridis, si je dis bien son nom. Et en fait, si je regarde, je crois que je n'aime aucun des films qu'elle a écrit, produit ou co-écrit. C'est-à-dire qu'elle a fait Alexandre d'Oliver Stone, que je n'aime pas. Elle a fait Avatar. En fait, c'est la productrice déléguée d'Avatar 1. Elle a fait La Prophétie de l'Horloge, Alita Battle Angel et Ambulance. Genre vraiment, entre autres, c'est du cinéma qui en fait ne me parle pas. Parce que, étrangement, même écrit ici par une femme, très, 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 très masculin. Bon, après, c'est l'adaptation d'un roman. Hein. Je sais que là, elle est scénariste dessus. Mais en fait, c'est des constructions narratives qui ne me plaisent pas, basées sur le twist. En plus, je trouve que les thrillers psychologiques à twist est quelque chose qui a particulièrement mal vieilli aujourd'hui, parce que plus attendu. Puis en plus, c'est un film dont j'ai capté la fin très, très, très rapidement, ce qui m'a gâché mon plaisir.
C'est parce que t'es trop intelligente pour nous, Sophie.
Non, ça, c'est parce qu'à l'époque, Allociné me l'a spoilé en me disant si vous aimez Shutter Island, vous aimerez aussi Sixième Sens, The Game, Fight Club. J'ai fait OK, c'est bon, c'est la merde. Genre,
Alors, c'est vrai que les films à twist, c'est des films avec un handicap certains, ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, le film est raté.
Ce que je trouve très intéressant, c'est que d'un roman à twist, parce que le roman est indiscutablement un roman à twist et puis te cueille comme une cuillère au cœur de l'hiver, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Non, moi non plus.
Personne.
D'un roman à twist, Scorsese fait un film transparent. Et il y a plusieurs raisons à ça. Pour le coup, moi, les travaux parallèles de la scénariste et aussi productrice...
Oui, c'est ça, les productrices sur pas mal de projets. Voilà. Elle n'est pas scénariste de tout ce que j'ai cité, hein, je tiens à préciser.
Mais m'intéresse pas trop parce qu'il me semble que, et ça, c'est un travail d'adaptation qui est assez fascinant, le film est incroyablement fidèle au roman. Il y a, même jusque dans les répliques, hein, il y a vraiment un travail de transposition absolue. Sauf que la mise en scène de Scorsese va travailler à transformer ce qui, dans le texte, était des twists à des indices qui sont évidents pour le spectateur. Pourquoi ? Eh bien, et c'est moi, pour moi qui adore le film, c'est plutôt pour me rapprocher de toi, Sophie, c'est parce que je pense que ça n'est pas un film à twist. En fait, c'est un film qui, à mon sens... et un des derniers révélateurs de ce qu'est le cinéma de Scorsese, et je vais essayer d'aller vite avant de passer la parole à mes camarades, il faut en revenir à une conférence que vous pouvez trouver sur les réseaux, sur YouTube, qu'a donné ce bon Jean-Baptiste Toré au sujet de Scorsese, qui s'appelle « Vitesse trompeuse », qui pourrait marcher aussi avec Spielberg. C'est-à-dire que ça n'est pas tant une conférence pour dire « bah en fait, ils n'étaient pas bons », que pour dire « en fait, on n'avait pas compris dans quelle logique ils s'inséraient ». Et Vitesse trompeuse au sujet de Scorsese, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire non, ça n'est pas un réalisateur du Nouvel Hollywood. On croit que c'est un réalisateur du Nouvel Hollywood parce qu'il apparaît au même moment, parce que c'est un compagnon de ces artistes et de ces metteurs en scène-là. Mais contrairement au Nouvel Hollywood, ça n'est pas un cinéaste qui détruit ce qui a été fait avant lui dans la forme. Ça n'est pas un cinéaste qui veut rompre avec le passé. C'est au contraire un cinéaste qui veut atteindre une certaine perfection, une certaine synthèse des formes. Et là, tout d'un coup, il va nous faire donc un film à twist qui n'est pas un film à twist, qui est un film évident, transparent, qui déjoue complètement la logique du twist. Et en cela, je trouve que c'est un film qui nous dit ce qu'a toujours voulu faire Scorsese, à savoir faire un grand prêche. C'est ce que je vais dire est un cliché, mais c'est un cliché basé sur le réel. Ça n'est pas pour rien que Scorsese a hésité entre le cléricat et le cinéma. Il est là pour faire du sermon, pour se poser face à nous, pour nous donner l'interprétation d'un mouvement, d'un moment en particulier. Et quand bien même son cinéma est violent, provocateur et dur, en fait, dans sa forme et dans ce qu'il raconte, c'est un cinéma de l'âge d'or d'Hollywood.
Alexis, sur le film, et puis je vous relancerai après, parce que dire de Shutter Island que ça n'est pas un film à twist, quels que soient les prétextes cinématographiques qu'on lui tient, la réalité, c'est que ça reste malgré tout l'adaptation d'un roman à twist.
Oui, tout à fait. En fait, je suis quand même d'accord avec un truc qu'a dit Simon, c'est effectivement la question, on pourrait parler de maniérisme, même s'il y a quand même dans l'idée du maniérisme, qui est un courant artistique, l'idée d'aller chercher des formes du passé pour les commenter, c'est-à-dire pour les considérer comme des formes du passé, ce que Scorsese ne fait pas. Scorsese, il cherche à faire perdurer ces formes-là. Moi, en fait, ce que je trouve intéressant dans le film, pour moi, c'est pas un film à... C'est un film à twist, mais qui, pendant les trois quarts de sa durée, nous emmène vers un faux twist. C'est-à-dire que plus le film progresse et plus on se dit « Ok, ce personnage de Marshall qui est venu enquêter sur une disparition mystérieuse, donc vraiment un prétexte de film noir, hein, complètement. En fait, il est au cœur d'une machination, il y a quelque chose de sordide dans cet hôpital, il y a un secret enfoui. » En bref, le film commence à questionner de plus en plus intensément l'environnement du personnage, les personnages secondaires avec qui il interagit, la réalité des faits qu'on lui présente sur un plateau. Et on commence petit à petit à se dire que notre seul point d'ancrage réel auquel on peut se raccrocher, c'est précisément ce personnage, puisque comme nous, il est en train de vivre une machination, l'environnement autour de lui est maléfique. En fait, c'est pas ça. Le film va très vite changer son fusil d'épaule et nous dire « bah non, tu t'es trompé, ou plus précisément, je t'ai trompé. L'environnement n'a pas de problème. L'environnement est exactement ce qu'on t'avait présenté. C'est la nature du personnage qu'il fallait que tu remettes en question. » Donc, pour aller à la fois dans ton sens et contre toi, Simon, c'est un film qui est très transparent, certes, mais qui malgré tout conserve une ambiguïté puisqu'il amène le spectateur par sa transparence à se poser les bonnes questions et à y apporter dans un premier temps les mauvaises réponses. Ce qui est, je trouve, il y a une partie sur laquelle je vais revenir très rapidement et on aura peut-être l'occasion d'approfondir, mais le film, donc, à plusieurs moments, va faire intervenir des flashbacks pour nous dévoiler un peu la psychologie et le passé de ce personnage. Et il y a notamment des flashbacks qui ont fait beaucoup polémique à l'époque, qui montrent le passé de ce personnage qui a fait partie d'un commando de Marines américains qui a libéré le camp de la mort de Dachau. Et on a des images de la Shoah qui nous sont montrées frontalement, sans aucun filtre, sans aucune suggestion, mais vraiment avec une brutalité qui est assez sidérante. Pour moi, il y a la clé de compréhension du projet esthétique du film, elle est dans ces séquences-là. C'est-à-dire que Scorsese nous dit « Je suis prêt à franchir un tabou de la représentation cinématographique, à savoir la représentation frontale de l'Holocauste. Et si je franchis ce tabou-là, c'est pour te dire que dans mon film, il n'y a pas de suggestion. Il n'y a pas de hors-champ. Toutes les clés sont dans l'image. Par contre, je ne vais pas systématiquement te dire où regarder, et même parfois, je vais te faire croire qu'il faut que tu regardes à un certain endroit, alors qu'en fait, tu aurais dû regarder ailleurs. » Donc, quelque part, c'est là le paradoxe du film que je trouve très intéressant, c'est que Scorsese nous donne l'impression, bah, en fait, de nous avoir donné les clés pour comprendre. C'est juste nous qui les avons pas vues. En fait, c'est pas vrai. Il nous a donné les clés, mais il les a quand même dissimulées dans l'image elle-même.
Mouf.
Ah bah si, c'est complètement.
Alors, rapidement, bah, rapidement au revisionnage, parce que j'ai regardé des bouts tout à l'heure, pour revenir sur ce que tu viens de dire, Alexis, effectivement, si on fait un peu attention aux détails, aux accessoires, aux costumes, en fait, dans la cinématographie, tout au long de l'histoire, on nous indique justement cette vérité qui nous est faussement cachée, mais qui est présente sur le pansement qui est là, mais qui, en fait, quand la grande révélation arrive, il ne l'a plus, sur les costumes qui évoluent et qui reprennent de plus en plus ceux présents sur l'île. Enfin, en fait, c'est des choses qui reviennent, en fait, tout du long dans le film que l'on voit, quoi.
Alors, là où je trouve que le film est passionnant, vous savez, dès qu'on parle de violence dans le cinéma américain, quelle que soit l'époque dans laquelle on se place, ici, juste après la Seconde Guerre mondiale, et un personnage qui nous est montré, et de manière tout à fait transparente, ça n'est pas un twist, hein, comme traumatisé par l'épisode que tu viens d'évoquer, qu'il a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, bah, on parle de contamination de la violence. Et en général, ça veut dire qu'on met la violence dans un hors-champ ou simili-hors-champ qui contaminerait progressivement le récit. Et en fait, Scorsese, et c'est pour ça que je voulais citer La vitesse trompeuse de Toré, opère un truc totalement différent, qu'on n'a jamais vu, qui est d'une brutalité sans nom. C'est non, la violence n'est pas un hors-champ et je vais l'assumer. Et il y a un travelling dans le film qui pourrait être non pas une réponse, mais un dialogue avec le fameux travelling de Capot. Et le problème du travelling de Capot, qui est la mise à mort, la fusillade de soldats allemands au moment de la libération de Dachau. On est tous d'accord que la libération de Dachau, ceux pour lesquels on a de l'empathie, c'est certainement pas les soldats allemands. Et le fait de tirer sur les soldats allemands, bah, quelque part, c'est peut-être pas bien, mais enfin, c'est peut-être pas si grave. Et là, tout d'un coup, ce travelling où on voit les corps démantibulés des soldats allemands sous le coup des mitraillettes Thompson américaines durent 5, 6, 7, 10, 12 secondes. Un temps infini, un temps bien plus long que n'a duré la scène en vrai et en vrai dans le souvenir du héros. Et en fait, c'est un film qui nous parle de la contamination de la violence et qui tente d'opérer un truc qui est fascinant et qui justement n'est pas novateur si on le compare au Nouvel Hollywood, mais qui est extrêmement brutal et dur, qui dit non, la violence, je vais te la montrer parce que je veux te contaminer, toi, spectateur. Et je vais te faire te confronter à ce qu'elle a d'absolument inacceptable, terrible et monstrueux. Et je vais te faire être révolté par la mise à mort de putain de soldats nazis. Et en cela, le film crée un langage et un schéma de rupture qui est incroyable.
Arthur.
Moi, je voulais juste revenir sur ce qu'a dit Sophie en préambule, parce que j'ai eu un ressenti un peu différent. Moi, j'ai vu le film quand il est sorti, donc j'avais 16, 17 ans. Et à l'époque...
2010.
À l'époque, je À l'époque, je n'avais pas une culture cinématographique qui est celle d'aujourd'hui et je ne connaissais pas bien le cinéma de Scorsese. Et moi, je découvre le film en ne connaissant pas bien le cinéaste et je sors en me disant « Ah, ça aurait pu être du Fincher ou du Nolan, que ça ne m'aurait pas étonné. » En me disant « C'est surprenant qu'il puisse faire... » Non, mais je vois Simon qui lève les yeux au ciel.
Simon vient de percer l'histoire.
Non, je ne levais pas les yeux au ciel, je disais « Tiens, c'est intéressant.
» ça te fait penser un peu à du Memento, à des... Enfin, voilà. Et en fait, j'ai découvert récemment Les Nerfs à Vif. Et je me suis dit, tiens, c'est donc là, en fait, Shutter Island n'est pas le seul film d'horreur de Scorsese. Il a déjà, justement, montré frontalement cette violence, cette noirceur et cette horreur
fait un peu dans A Tombeau Ouvert aussi, en plus, un de mes Scorsese préférés, en plus.
Chef-d'œuvre absolu.
Mais oui, clairement.
Pas encore vu celui-là. Mais du coup, je me suis dit, voilà, c'est marrant de me dire, à l'époque, je l'ai ressenti comme disant, putain, ça ressemble pas à du Scorsese, c'est étrange. Et quand, 10, 12 ans plus tard, je découvre un autre de ses films, je me dis, ah ouais, non, en fait, c'est plus ou moins cohérent.
Mais quand même. Mais alors... A Tombeau Ouvert,
99, qui est également une adaptation de roman de Joe Connelly avec Nicolas Cage en ambulancier halluciné.
Scénarisé par Paul Schrader, qui avait scénarisé
Taxi Driver.
Et La Dernière Tentation du Christ, autre grand chef-d'œuvre scorsésien.
Et adapté d'un roman.
Mais alors, c'est rigolo parce que, oui, moi je suis d'accord, je la sens pas plus que ça, la cinématographie de Scorsese. Je ne sens pas vraiment sa patte dans Shutter Island, mais en même temps, on est juste après Les Infiltrés, qui est au contraire hyper scorsésien, mais juste avant Hugo Cabret, qui pour le coup a un peu désarçonné, parce que dans le merveilleux, dans le fantastique, dans l'amour du cinéma, dans voilà. Mais en fait, moi, ce n'est pas tant le manque de personnalité cinématographique dans Shutter Island qui me gêne, c'est plutôt des tropes de cinéma, des images, des clichés, et notamment cette scène au tout début, où vraiment on a la présentation des détenus, parce qu'ils sont, c'est pas vraiment des patients, hein, c'est vraiment, ils sont enchaînés, de cette espèce de madame sans cheveux qui fait chut, que j'ai retrouvé un petit peu dans cette abomination qui est Cure for Life, qui présente
Cure for Wellness, oui.
Ouais. Voilà,
de Gore Verbinski, c'était un peu dur d'en parler quand
alors,
même.
Je parle vraiment genre de cette.
La raison, c'est super cohérent.
C'est très très cohérent. Ouais.
Oui,
c'est,
non mais.
C'est, en fait, c'est ces images-là, moi, qui me gênent parce que j'ai l'impression qu'il est hors de sa zone de confort. Mais comme il l'est avec Hugo Cabret, hein, on va pas se mentir, il sort d'une période vraiment plus même à tombeau ouvert, Gang of New York, Aviator, Les Infiltrés. On est sur du full Scorsese, gangster, personnalité qui twist, attirance pour le pouvoir. Et là, on commence à basculer presque dans de la tentation, dans autre chose, qui va mettre de côté avec le Loup de Wall Street et qui va retrouver avec Silence. En mode je vais m'ouvrir sur d'autres catégories et en fait j'ai l'impression que du coup à quelques moments il se perd parce qu'il va chercher dans de l'imagerie horrifique qu'il maîtrise pas à 100% et même j'ai l'impression qu'il va chercher un peu dans le jeu vidéo et c'est pas des scènes que je déteste dans le film hein, notamment la poursuite dans le phare ou en tout cas pas dans le phare mais il y a quelque chose qui fait presque du carreau jeûné genre avec une espèce de profondeur très très métallique et donc en fait j'ai l'impression de voir un fourre-tout des tentatives ce qui est pas inintéressant quand on voit la carrière de Scorsese mais qui en tout cas moi n'aboutissent pas parce que l'imagerie j'ai l'impression de la connaître ailleurs ce qui revient avec le Memento, Nolan ou quoi que ce soit c'est un peu un mash-up un peu chelou.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
La doxa aurait tendance à dire que Scorsese est sur un lent déclin après Casino. C'est-à-dire qu'il y a Casino qui est quand même un peu le summum de vraiment d'une acmé de sa carrière et que derrière, il va se perdre de façon résolue. Vous aimez bien À tombeau ouvert, mais ça n'est pas partagé par l'ensemble de la critique.
Ah, les gens, le Loup de Wall Street est revenu.
Le Loup de Wall Street, Gang of New York, Les Infiltrés. Globalement, Shutter Island est quand même considéré comme un Scorsese a priori mineur. J'ai l'impression que vous le défendez, vous n'avez pas l'impression tout de même qu'en se confrontant à ces nouveaux genres, son cinéma se dissout un peu, que son propos se perd un peu et qu'il tombe, comme le disait, et c'était intéressant cette comparaison avec
Les Nervifs
Fincher et Nolan. Est-ce que Scorsese ne bascule pas vers une sorte de thriller d'entertainment où on perd sa patte de cinéaste d'une manière ou d'une autre, Alexis?
Non, je pense pas. Déjà, parce que il ne faut quand même pas oublier que le cinéma de Scorsese a toujours eu un pied dans l'entertainment. Il n'y est pas allé beaucoup. Hein. Je pense qu'il a fait plus de films qu'on pourrait catégoriser comme films d'auteur que des purs films d'entertainment. Mais il ne faut pas oublier qu'avant de réaliser Raging Bull, qui est peut-être l'un de ses projets les plus radicaux esthétiquement parlant, il a réalisé New York, New York, qui était quand même un film musical à gros budget, qui se voulait être une espèce de nouvelle acmé du cinéma grand spectacle à l'hollywoodienne, comme ont pu l'être les péplums de la fin des années 60.
Bien sûr, mais on se souvient de Mean Street, on se souvient de Taxi Driver, on se souvient de Rick Dean Bull. New York, New York oui, reste à part dans la filmographie.
Ne pas oublier quand même que...
Mais à part de Pantin, on se souvient d'After Hours.
À part de par son bide. C'est un budget gigantesque, ultra marketé, qui aurait dû être l'immense.
Voilà, sauf que malheureusement, il est sorti de mémoire en 1977, soit l'année de Star Wars. C'est-à-dire le moment où le public a décidé que les productions du Nouvel Hollywood, surtout les productions fastueuses, ça n'intéressait plus des masses. Donc, en fait, déjà, on pourrait argumenter sur le fait que est-ce que Casino est un film de divertissement ? Moi, j'ai tendance à penser que oui, parce que ça dure quand même 3h15 et on se fait pas chier une minute. Donc, il y a quand même quelque chose de divertissant là-dedans.
Hein. Oui, mais bien sûr.
Et le rappel à la culture rock, et le rappel à tout ça, et aux les néons de Las Vegas, la manière dont il les utilise, l'énergie de sa mise en scène, il y a quelque chose de divertissant chez Scorsese, qui a toujours été là.
Mais tu vois bien ce que je veux dire quand je parle de cinéma de divertissement et du cinéma.
Casino, c'est le Titanic de Scorsese, c'est-à-dire c'est une des dernières tentatives de ressusciter, ramener la forme classique de la fresque littéraire, qui a existé à Hollywood, et là on essaye de la ramener.
Mais en réalité, je dis ça parce que ça veut dire qu'après Titanic, le cinéma de James Cameron s'effronte jusqu'à vraiment l'effondrement total.
Parce qu'après ça, il arrête de faire du cinéma classique.
Voilà, et après ça, il essaye de s'inscrire dans une geste.
Ce n'est pas le sujet.
Ça vaut pour les deux. Après ça, ils arrêtent d'essayer de s'inscrire dans une geste classique. Ils s'inscrivent dans une geste expérimentale et de renouvellement des formes. Et chez Scorsese, ça s'exprime à travers des œuvres incroyablement réussies ou incroyablement loupées. Mais il faut bien regarder, après Casino, c'est là où Scorsese devient le plus passionnant. C'est là où il se met en danger, c'est là où il se met en risque, c'est là où il tente des genres vers lesquels il n'est jamais allé. Et ça n'est pas parce que tu fais les yeux tout blancs.
Arrête de dire que Scorsese est le plus passionnant après Casino, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, le Scorsese, je suis désolé, il y a des très bons films post-Casino, mais quand même, le grand cinéma de Scorsese, c'est tout ce qui amène à Casino, excuse-moi.
Enfin, c'est Silence, c'est pas gigantesque.
C'est faux. Silence, c'est magnifique.
Gangs of New York, c'est une des expériences les plus radicales et folles.
Aviator, c'est un chef-d'œuvre. Les Infiltrés, c'est un très très bon film. Moi, je tiens en très très haute estime, et je pense qu'il a été malheureusement incompris du fait de sa distribution, mais je tiens The Irishman en très très haute estime. Mais ça, bon.
Je l'ai revu, et même si la photo est dégueulasse, c'est assez passionnant.
La photo est pas très jolie, ouais. Mais en fait, moi, tu vois, ce que disait Sophie, parce que j'aimerais reboucler là-dessus, il y a quelque chose d'intéressant et qui, pour moi, prouve que Shutter Island est un film animé par un geste de cinéma qui est passionnant. C'est qu'il y a ce moment donc où ils arrivent sur l'île. Et où là, en l'espace d'à peu près 5 minutes, c'est-à-dire du premier plan, qui est une citation explicite du vaisseau fantôme, une des nombreuses productions horrifiques de Val Newton auxquelles Scorsese fait référence assez souvent, jusqu'au moment où il rentre dans l'asile, on a vraiment 5 minutes, effectivement, assez cliché, il faut reconnaître. C'est-à-dire que le bateau sort de la brume et les mecs arrivent sur l'île.
Et il y a John Carroll Lynch qui te dit à droite les hommes, à gauche les femmes.
Voilà, et c'est justement à ça que j'arrive. Et ils voient les gardes qui ont leurs armes et qui semblent être véritablement menaçants. Et on comprend pas pourquoi ils sont menaçants, parce que c'est des marshals qui viennent leur filer un coup de main. Et puis ils voient les patientes qui sont filmées comme des créatures horrifiques au ralenti. Bah pardon, mais ça, elles servent à quoi ces 5 minutes ? Moi, en tant que spectateur, elles me servent à quoi ? À me dire, ok, ce lieu-là, il y a un truc qui cloche. D'entrée de jeu, parce que Scorsese filme ce lieu qui est un lieu supposément clinique, où on se débarrasse de la folie, où donc, en termes métaphoriques, on se débarrasse de l'horreur. Qu'est-ce qu'il fait ? Il injecte de l'horreur tout de suite dans l'espace.
Et c'est l'horreur d'après les camps. C'est l'horreur d'après les camps devenue pure conte et pure narration.
Non, mais c'est surtout, même sans aller jusque-là.
Ils sont dans un délire total.
Non, mais il n'y a pas de délire total. Non, mais sans aller jusque-là, l'argument horrifique, la problématique, c'est le lieu.
C'est cliché, donc c'est génial. Non, mais au secours, Alexis, excuse-moi.
En fait,
pardon
Nicolas, mais c'est pas parce que c'est cliché que c'est génial. C'est parce que Scorsese utilise les clichés pour nous tromper. Voilà, c'est
pour
ça.
Nous tromper, au contraire, il nous met les deux pieds sur les rails à ce moment-là. Enfin.
Sur quels rails ? Sur les rails que le personnage de Teddy Daniels c'est fou ? Non, sur les rails que l'environnement pose problème. Or, il ne pose aucun problème. C'est le scénario, là, pardon. Le scénario ne pose aucun problème. L'asile est tout à fait normal. C'est le personnage qui déconne et le film nous trompe. 90% du public s'est fait berner par Shutter Island, c'est donc que ça marche. Vous pouvez peut-être pas l'accepter, mais le film marche, donc il est réussi. Voilà.
Moi, j'avais deux petites pistes de réflexion par rapport au fait de est-ce que c'est un Scorsese ou pas. Tu disais tout à l'heure, Nicolas, que c'était une adaptation de Denis Lehane. Il y a eu d'autres adaptations au cinéma, hein, Mystic River, Gone Baby Gone, qui ont toutes plutôt bien marché. Mais quand on regarde Mystic River et Gone Baby Gone, donc de Clint Eastwood et
et de Ben Affleck, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça.
Oh, bah, quand même, Shutter Island, il y a un grain, il y a une mise en scène qui est quand même vraiment totalement à part. Et puis, Shutter Island s'inscrit aussi, malgré tout, dans un geste qu'on a eu dans les années 2000, d'essayer de faire revivre les films noirs. Le cinéma des années 40, les polars à l'ancienne, je pense au Dahlia Noir, mais il y en a plein d'autres. Dans ce style-là, je trouve qu'il essaye d'emprunter d'autres codes esthétiques, d'autres manières de mener par la baguette le spectateur, qui sont pour le coup un peu en dehors de tous ces films-là, de ces tropes-là. Et en ce sens, peut-être que justement, il faut voir Shutter Island comme une proposition qui ne s'inscrit un peu ni dans l'un ni dans l'autre et qui est un peu à part.
En fait, moi, ce qui me choque juste, c'est que, et c'est peut-être bête, hein, mais j'ai étudié notamment à la fois la notion du mystique et surtout la notion du reflet et de la gémellité chez Scorsese, qui est un sujet qui arrive dès The Big Shave, son premier court-métrage, et surtout dans Taxi Driver, qui parle du post-trauma. Et je trouve que là, de le montrer avec une espèce de manière twistée, un peu comme l'a fait... Mais tu fais bien de citer Fincher, genre en effet The Game, Fight Club. En fait, pour moi, c'est juste un mouvement de mode, et j'ai l'impression qu'en fait, il en perd le sel de sa subtilité, parce que le post-trauma, en fait, il le traite depuis le tout début de sa carrière. Et en fait, avant, il le faisait sur des trucs qu'on remarque pas. En fait, de base, si tout le monde dit you talking to me, en fait personne voit qu'en fait le fait qu'il se parle à lui-même, c'est déjà une manière de parler à son propre trauma. Là, comment il le fait, c'est en mettant une espèce de vieille femme hystérique marquée run sur ton cahier pour montrer qu'il y a un souci.
Alors, si je peux me permettre, n'oublions quand même pas la fin de Taxi Driver où le mec remet sa veste de vétéran du Vietnam, se taille une crête iroquoise, porte une paire de Ray-Ban et va déglinguer des macros à coups de magnum. On n'est quand même pas sur une représentation subtile et délicate du post-trauma, tu vois.
Bah, ça, il toi, tu commence
là, mais là on parlait de la gémellité, Alexis, c'est pas la même chose. On parlait de la gémellité, du rapport au double et du rapport à la division en deux, à la duplication post-trauma du personnage, qui est pas tout à fait pareil.
Merci. Oui, je suis d'accord, mais il y a quand même toujours l'idée chez Scorsese, et c'est là que Shutter Island est peut-être intéressant, c'est qu'il y a toujours l'idée chez Scorsese que on va d'une manière ou d'une autre vers la violence et vers une violence qui va être explosive, qui va être démonstrative, qui va être brutale. Mais effectivement, on y va parfois par des chemins très subtils et très fins, comme c'est le cas pour Taxi Driver, via quelques petits indices qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui cloche chez le personnage. Oui, mais attends, c'est là où j'y viens. Shutter Island, justement, il n'y a pas cette phase de préparation, mais il n'y a pas l'explosion de violence non plus. C'est-à-dire que l'explosion de la violence, elle a déjà eu lieu.
Il y a le choix d'imploser.
Bah, c'est
un personnage qui fait
c'est
le
ça.
Choix d'imploser.
Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus contenu. À la lecture de la filmographie de Scorsese, il y a presque un mouvement contraire dans Shutter Island, parce que le personnage de Leonardo DiCaprio ne va pas vers une explosion de violence. Elle a déjà eu lieu.
Je ne suis absolument pas d'accord, hein, mais j'entends.
C'est la beauté du débat.
Simuna. La Simona, moi, peut-être un truc que j'aimerais dire, vous nous avez entendu citer plusieurs fois Denis Lehane depuis le début de ce podcast. C'est un immense auteur de thrillers et de polars américains, mais aussi de romans historiques. Et j'aimerais vous recommander trois textes qui sont tous relativement brefs, extrêmement accessibles. Alors, il y a évidemment Un dernier verre avant la guerre, qui est celui qui fonde Gennaro et Mackenzie, c'est-à-dire une saga qu'il a écrite. Pardon ?
Kenzie et Gennaro.
Oui, Kenzie et Gennaro. Une saga qu'il a créée, qui est absolument incroyable. Et il y a un autre...
Ténèbres, prenez-moi la main, deuxième est merveilleux. Moi, je trouve
c'est
celui
dont j'allais parler. Ouais. Ténèbres, prenez-moi la main, qui est exceptionnel, qui est peut-être un des seuls grands récits de serial killer littéraire, qui est vraiment...
Ouais, il y a Elroy quand même. Un tueur sur...
Alors non, alors quand je dis un récit de serial killer, je veux dire qu'il soit proche du cinéma, tu sais, de cette enquête sur le serial killer. Ouais. Pas d'un travail sur le meurtre et sur le mal. Et enfin, un autre texte de Denis Lehane que j'aimerais vous recommander, qui là est un grand, grand texte historique qui essaye de revisiter un truc qui n'est pas du tout connu ni des Américains ni du reste du monde. C'est comment, en 1918, au moment où reviennent les vétérans de la Première Guerre mondiale, où il y a la grippe espagnole et où ils découvrent que, oh putain, les femmes et les noirs ont travaillé à notre place pendant qu'on était à la guerre. Eh bien, où à Boston notamment, il va y avoir une révolte communiste qui va être matée par l'armée. Un truc qui n'est pas connu, hein. Il y a eu une révolte communiste à la même époque et à la même en Bavière. Hein. Enfin, c'est vous dire comme c'est une partie de l'histoire qui a été passée sous silence. Eh bien, c'est un roman incroyable qui s'appelle Un pays à l'aube. Lisez-le, Denis Lehane, très 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 grand texte.
Voilà, vous pouvez plonger vraiment les yeux à peu près fermés dans la bibliographie de Denis Lehane, qui est très bien. Peut-être un dernier mot pour conclure ces tours de table autour de Shutter Island de Martin Scorsese. de Leonardo DiCaprio. Donc, à ce moment-là, c'est son troisième film. On sait qu'il y a un lien très, très fort qui s'est créé entre le réalisateur et l'acteur, qui va continuer et qui va développer plus tard, après, dans Le Loup de Wall Street. Un mot là-dessus, sur les liens, sur DiCaprio chez Scorsese. Alexis, peut-être ?
C'est particulier, en fait, parce que moi, j'ai autant je vois tout à fait ce qui a alpagué Martin Scorsese chez Robert De Niro, autant, et c'est pour ça que je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus, j'ai toujours été un peu dubitatif par le fait qu'il soit allé chercher DiCaprio. Même si je trouve que DiCaprio a toujours eu des rôles très forts et des performances super intéressantes chez Scorsese, mais j'ai du mal à voir sur le papier, du moins avant qu'elle ait lieu, quelle parentalité, en fait, peut exister entre le cinéma de Scorsese et l'acting de DiCaprio ?
Bah, il me semble qu'à partir du moment où il travaille avec DiCaprio, il travaille sur des personnages qui sont faux.
C'est la quatrième fois, pardon, Arthur a raison, parce qu'il y a Gangs of New York aussi, pardon, j'avais pensé à Aviator, les infiltrés, c'est la quatrième fois et cinquième fois avec Loup de Wall Street, pardon.
À partir du moment où Scorsese travaille avec DiCaprio, il travaille sur des personnages qui sont faux, ce qui n'était pas le cas avant. Il travaillait sur des personnages qui avaient des faux semblants, qui faisaient des erreurs, qui pouvaient se retourner, réaliser qu'ils s'étaient trompés. À partir de DiCaprio, il raconte l'histoire de personnages qui sont faux.
Pour moi, c'est le moment où DiCaprio veut changer son image complètement. Il y a une vraie bascule, c'est-à-dire que DiCaprio, le monde l'a découvert vraiment avec Titanic, hein. C'est son premier grand rôle, même si beaucoup vont dire Roméo plus Juliette, mais en tout cas, on est dans une même typologie de presque de... Alors, pas de miné, mais en tout cas de petit jeune un peu fragile, très séducteur et très frais. Et en fait, même s'il commence un petit peu avec La Plage, avec L'Homme au masque de fer, à commencer à effriter son image, c'est vraiment avec Scorsese qui dit non, je suis un bonhomme. Moi, c'est pas ce que je préfère chez DiCaprio. J'avoue que sa transformation est un peu radicale et je trouve qu'elle met un moment à se mettre et je préfère ce qu'il va faire limite. Alors, un peu dans Gangs of New York, mais surtout dans Le Loup de Wall Street, qui est encore une fois pas non plus mon Scorsese préféré. Mais où je trouve que la performance est vraiment un petit peu plus subtile que dans Les Infiltrés, où je le trouve un peu trop bourrin, et surtout dans Shutter Island, où je le trouve un peu monocorde. Mais c'est pas grave, hein, ça reste un très grand comédien et je chipote, c'est juste que j'ai l'impression qu'il veut un peu trop taper du poing sur la table pour dire hey, « regardez comme en fait je suis viril ». Et ça transparaît un peu, donc c'est un choix de carrière, hein, c'est respectable. Hein, mais...
Perso, mon rôle préféré de DiCaprio, c'est dans Critters 3 en 1991. Évidemment. Mais je comprends que ce soit un choix ou un goût qui puisse se discuter. Et vous, alors, racontez-nous tout. Ah oui, si, fun fact, So Far et Jusqu'à preuve du contraire, c'est le meilleur box-office français pour Scorsese.
Ouais, plus de 3 millions d'entrées.
Ouais, plus de 3 millions d'entrées. Ouais, c'est le meilleur film, c'est le meilleur box-office.
Et c'est pas tant que ça, en plus.
Pas tant que ça, c'est un dieu inca, c'est un dieu de la fertilité, mais aussi de la destruction des corps et qui découpe les gonades et qui les mâchonne avant de les emmener en enfer. Pas tant que ça.
On pourrait imaginer Scorsese a fait des films à plus de 3 millions, c'est pas tant que ça.
Non, tant que ça.
Scorsese est pas un habitué, du moins en France, et pas un habitué des sommets du box-office.
C'est fou, hein. Ouais.
Mais c'est un cinéaste qui, par contre, a une endurance assez ouais. Dingue, même si là...
Pas tant que ça.
Voilà, bah oui, parce que...
Pas tant que ça.
Parce que Silence s'est planté la tronche, et ouais. Il a fait The Irishman pour Netflix.
En même temps, Silence, c'est quand même particulièrement...
Et Robert De Niro, c'est la première fois qu'ils sont tous les deux devant sa caméra, sort sur Apple TV, je crois.
Ouais.
Donc là, visiblement, il est carrément sorti de la salle de films.
En même temps, Silence, c'est quand même pas... C'est exigeant, quoi, comme film.
Un peu plus.
Vous voulez dire que les studios ne l'aiment pas tant que ça.
Oh la vache, les gars.
Ouais, bon, bah allez.
Merci d'avoir fait.
De rien, avec plaisir. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt OK Shutter ou plutôt OK Boomer? Vous nous
waouh.
C'est pas tant que ça, terrible non plus, pardon. Vous nous dites tout dans les commentaires sur nos réseaux sociaux @rstrucage sur Insta et sur Twitter. Et vous n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute de podcast ou de streaming préféré, de nous laisser des petites notes et des petites étoiles, parce que pour nous, nos étoiles, c'est vous. Et on en laisse aussi sur les films de la semaine dans notre tableau des étoiles. Vous pouvez les retrouver aussi sur nos réseaux sociaux. On se retrouve vendredi pour le prochain épisode de Réaliser sans trucage. Et avant cela, si vous êtes sur Paris et en région parisienne, venez donc nous voir en chair, en os et en sang, puisque nous serons tous les 5 au Hurlequin, à l'Arlequin, pour une séance croisée Hurlequin Réaliser sans trucage, avec la projection de The Thing de John Carpenter. On a hâte de vous y voir. Allez, bye les amis, et gloire au passé.
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.